écoutez RFI, il est 17h à Paris, 15h en temps universel.
Marion Kazanov.
À la une, Israël menace de frapper à nouveau le Liban s'il ne désarme pas le Hezbollah. L'État hébreu a lancé plusieurs raids la nuit dernière dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Bangladesh, dans ce journal également, le gouvernement provisoire annonce des élections pour l'an prochain. On verra aussi que des milliers d'enfants Rohingyas réfugiés dans le pays pourraient être privés d'école faute de financement humanitaire. En France, l'ouverture d'un procès en appel contre l'État pour l'effondrement de la biodiversité. Et puis on ira faire un tour à Roland-Garros, l'un des tournois de tennis les plus importants de l'année où Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti se disputent une place pour la finale. Pour l'instant, deux manches à une pour l'Espagnol. L'armée israélienne a appelé cet après-midi à évacuer plusieurs quartiers de Gazaville dans le centre de l'enclave palestinienne. Les frappes sont quotidiennes sur ce territoire palestinien. Hier, elles ont fait au moins 37 morts selon la défense civile gazaoui. Israël a mené aussi des frappes la nuit dernière au Liban. L'État hébreu divisait le Hezbollah avec plusieurs raids donc sur la capitale, notamment la banlieue sud. Et il prévient, Michel Paul, qu'il continuera si le Liban ne désarme pas le groupe chiite.
Israël continuera de frapper Beyrouth si le Liban ne désarme pas le Hezbollah. C'est la menace du ministre israélien de la Défense ce matin. Pour Israël Katz, il n'y aura pas de calme à Beyrouth sans sécurité pour l'État d'Israël. Des propos tenus après les bombardements israéliens la nuit dernière, pas moins de 5 frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, la Dahiya, le baston du Hezbollah dans la capitale libanaise. Israël dit avoir visé des installations souterraines utilisées par le mouvement chiite pour la fabrication de drones, une production de masse des milliers de drones selon l'armée israélienne, qui précise dans un communiqué que cela se fait sous la direction et le financement de ce qui est qualifié de groupes terroristes iraniens. Et pour Israël, il s'agit d'une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé avec le Liban. C'est la 4e fois que l'aviation israélienne cible ce secteur depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 27 novembre dernier.
Michel Paul, la fin d'une amitié qui fait beaucoup parler aux États-Unis, celle entre Donald Trump et Elon Musk. Ils étaient presque inséparables au début du mandat de Trump. Le milliardaire patron de Tesla et SpaceX a même eu un poste au gouvernement pour couper dans les dépenses publiques. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Ils s'écharpent chacun sur leur propre réseau social. Et Elon Musk a frappé fort. Il affirme que le président est impliqué dans l'affaire Epstein, du nom de cet ancien financier de Wall Street soupçonné d'avoir mis sur pied un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Les précisions avec Marine de la Moissonnière.
Sur son réseau social X, Elon Musk affirme que le nom de Donald Trump figure dans le dossier Epstein. Selon lui, c'est pour cela que les documents secrets concernant l'homme d'affaires dont dispose le gouvernement n'ont pas été rendus publics. Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019 avant d'avoir pu être jugé. Une accusation lancée comme une bombe. Au milieu de plusieurs tweets rageurs, Elon Musk n'apporte aucune preuve. Les démocrates en réclament, trop contents de pouvoir retourner à leur avantage les théories conspirationnistes des partisans de Donald Trump. Dans le camp MAGA, on affirme depuis des années que parmi les complices de Jeffrey Epstein figuraient des personnalités d'Hollywood et des démocrates. Leur implication aurait été dissimulée par des fonctionnaires. La Maison-Blanche se contente d'affirmer que les attaques d'Elon Musk sont regrettables. Avant son élection, Donald Trump, qui jurait n'avoir rien à se reprocher, se disait prêt à déclassifier tous les dossiers relatifs à Jeffrey Epstein. Il ne l'a jamais fait.
Au Bangladesh, des élections seront organisées en 2026. C'est ce qu'annonce le chef du gouvernement provisoire. Ce sera le premier scrutin depuis la révolte de l'an dernier qui a renversé le gouvernement. Aujourd'hui, c'est Mohamed Yunus, ancien prix Nobel de la paix, âgé de 84 ans, qui est à la tête provisoirement donc du pays. Toujours au Bangladesh, l'un des plus grands camps de réfugiés du monde est en crise. Le pays accueille plus d'un million de Rohingyas qui ont fui la répression de l'armée birmane. Mais 8 ans après, le plus important exode de cette minorité musulmane, les fonds manquent pour les aider. L'UNICEF vient d'annoncer qu'elle va devoir fermer toutes ses écoles dans ses camps de réfugiés. Si les États ne renouvellent pas leur financement dans les jours qui viennent, 250 000 enfants n'auront plus accès à l'éducation. Pourtant, essentiel pour qu'ils ne soient pas exposés à des violences, Sébastien Farcy.
Les jeunes enfants Rohingyas de ces camps du Bangladesh sont généralement nés sur place. Pour toute cette génération, les écoles de l'UNICEF sont donc l'un des seuls lieux qu'ils ont pour apprendre les bases de lecture ou de mathématiques. Mais sans nouveau financement, ces écoles ne peuvent plus opérer. Elles ne vont donc pas rouvrir en juin et pourraient fermer indéfiniment à partir de juillet. Ceci représente un désastre pour le futur de ces enfants, mais aussi pour leur sécurité immédiate, alerte Angela Kearney. Elle est responsable de terrain pour l'UNICEF dans ces camps.
Tant que les enfants sont à l'école, les filles ont bien moins de chances d'être forcées à se marier de manière précoce. Et pour les garçons, cela évite qu'ils soient recrutés par les différents groupes armés qui opèrent dans la région. Donc c'est très important de garder ces enfants à l'école.
L'UNICEF aurait besoin de 2 millions de dollars par mois pour assurer le minimum d'éducation de ses 230 000 enfants. L'arrêt des financements américains pour le développement a précipité cette crise, mais la baisse de l'aide aux Rohingyas a commencé avant et beaucoup d'autres pays ont également réduit leur soutien.
Le Premier ministre indien, lui, est au Cachemire. Une première depuis la confrontation militaire du mois dernier avec le Pakistan. Narendra Modi est venu inaugurer une ligne ferroviaire dans cette région, marquée, endeuillée par un attentat qui avait donné lieu à la pire confrontation entre le pays et son voisin depuis des décennies. Narendra Modi qui vient aussi de confirmer qu'il participerait au sommet du G7 au Canada dans le 15 juin prochain. RFI 17h06 à Paris. En France, l'État risque d'être condamné pour ne pas avoir assez protégé la biodiversité. 5 ONG le poursuivent en justice. Elles avaient déposé déjà un recours en 2022 et avaient gagné en première instance. Sauf qu'elles n'avaient pas obtenu ce qu'elles souhaitaient, à savoir une limitation des pesticides mis en vente. Aujourd'hui, l'affaire est donc examinée en appel par la Cour administrative de Paris. La députée européenne Marie Toussaint rappelle les dégâts de cet épandage de pesticides sur la biodiversité.
On vit un moment extrêmement difficile, un moment risqué pour l'avenir de l'humanité, si je peux me permettre d'être aussi grave, mais parce que c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. On a cet effondrement du vivant. Alors on dit beaucoup, quand vous prenez votre voiture, souvenez-vous, pour les plus âgés, pas pour les plus jeunes, mais quand vous étiez plus jeune, il y avait des insectes partout sur votre pare-brise. Il n'y en a plus aujourd'hui, et bien pour cause du fait de cet effondrement de la biodiversité largement basé sur l'épandage partout de pesticides, et bien 75% des insectes volants ont disparu pendant les 30 dernières années. Et où que ce soit qu'on regarde en matière du vivant, que ce soit sur les animaux, sur les végétaux, les chiffres sont absolument
sur les oiseaux,
affolants.
Notamment.
On a perdu énormément d'oiseaux au niveau européen. Et donc, il est temps d'agir. Et il y a des responsabilités pour cet effondrement du vivant. Et c'est précisément ce que disent les associations en soulignant le rôle de l'État, des États d'ailleurs au niveau mondial, pour enrayer cette perte de biodiversité.
Et la députée européenne Marie Toussaint était l'invitée internationale de RFI au micro de Julien Coquel-Rouem. Interview à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien notre application Pure Radio. Les smash résonnent dans l'Ouest parisien au tournoi de tennis de Roland-Garros. Demi-finale homme en ce moment avec un duel accroché entre le tenant du titre Carlos Alcaraz et l'Italien Lorenzo Musetti. Chacun nous fait admirer sa panoplie avec des amortis plus ou moins réussi, des revers non lignés, c'est sous vos yeux Frédéric Chuteau. Un festival de break et de débreak dans les deux premières manches et maintenant Frédéric Alcaraz commence à prendre le large.
Ah, c'est même plus que ça, Marion, pendant qu'on parlait des insectes sur les pare-brises, figurez-vous que Lorenzo Musetti a jeté l'éponge. Il a abandonné l'Italien comme il l'avait fait en 2021 face à Novak Djokovic après avoir mené 2-7 à 0. Il a remporté la première manche 6-4, deuxième set extrêmement serré. Il aurait très bien pu mener 2-7-0, mais Alcaraz a su serrer le jeu quand il le fallait, un peu moins de fautes directes. 7-6 pour Alcaraz dans la deuxième. Et derrière, l'Espagnol tenant du titre s'est mis en mode rouleau compresseur. 6-0 dans la troisième manche. Et à 2-0 dans le quatrième, alors qu'il n'avait pas montré de signe de blessure, Lorenzo Musetti s'est dirigé vers le filet en faisant signe à Carlos Alcaraz. Terminé pour moi, je m'arrête là. Il venait d'encaisser 8 jeux d'affilée, donc il y a sûrement un pépin musculaire qu'a ressenti l'Italien. En tout cas, il y avait encore quelques minutes auparavant des échanges splendides, même s'il était largement mené depuis quelques jeux. Donc le coup de théâtre, et là c'est Carlos Alcaraz qui est en train de répondre au speaker, puisque pour lui, bah, c'est bon, qualification pour la finale de dimanche.
Merci Frédéric Suto, et on verra qui il affrontera dimanche. La seconde demi-finale oppose tout à l'heure le numéro 1 mondial Yannick Sinner au Serbe Novak Djokovic, 17h10 à Paris, à suivre sur RFI sur le Pont des Arts avec Marjorie Bertin.
Merci Marion.